Cardinals de l'Arizona.
All right, le chef du Parti conservateur du Québec est en studio. On a aussi le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, qui est député indépendant. Avant-hier, je pense que c'est fin de soirée, Jeff, on commençait à se jaser, toi, moi et Max. Et là, moi, j'étais excité.
Hey, on s'essaye fait. Youri Chassin va joindre les rangs du Parti conservateur du Québec.
La page d'histoire.
Député du... du Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale. Enfin, 500 000 personnes et plus qui ont voté pour le Parti conservateur vont être représentées.
Oui.
Puis là, hier, il n'y a rien de ça qui est arrivé.
Rien de ça. Ça a été un coït interrompu parce que je trouvais ça pertinent, la présence d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale en raison du fait que à l'Assemblée nationale, on va le dire, il y a plus de partis de centre-centre-gauche.
Oui.
Et même, il y a un parti d'extrême-gauche qui est là. Moi, j'aime bien avoir un parti de centre-droit économique qui est là pour, des fois, ramener le gouvernement sur la raison.
Mais est-ce que la CAQ était censée être?
Ben oui. Puis ce que le Parti libéral était anciennement, là,
ouais,
c'était un parti de centre-droit économique. Puis là, on a mis un gars qui était dans l'équipe à Justin Trudeau. Fait que
Dominique Anglade.
Ça prenait, à mes yeux, un parti plus de centre. Fait que là, moi, avant hier soir, là, tout était fait. Là.
Ben oui, moi aussi.
Éric Duhaime s'en va à l'Assemblée nationale. Youri Chassin est le député du Parti conservateur du Québec. Et là, hier, j'ai écouté la conférence de presse. J'étais content de ce qui a été dit. Puis on veut que le gouvernement soit un peu plus à droite au niveau économique. Mais j'ai eu un coït interrompu, Éric Duhaime. Salut.
Bonjour.
Je suis le seul à en avoir eu un ou bien?
Ben pourtant, les convocations étaient claires. Là, on disait pas qu'ils s'en venaient. On disait que c'était pour annoncer nos positions communes, les recommandations qu'on faisait à M. Legault en vue du discours d'ouverture qui va avoir lieu mardi prochain.
Ouais, s'il faut que je te donne quelque chose, là, c'est ton marketing. Là.
Comment ça?
Vous avez une équipe marketing qui est incroyable au Parti conservateur du Québec. vous nous faites toujours des belles surprises. Fait que moi, avant hier soir, je me suis dit, je lis le communiqué, ça dit pas qu'ils vont s'allier, mais c'est sûrement ça, je connais Éric!
J'ai appelé Antonine, qui fait le caucus.
Oui.
Dans l'émission, on en jase et j'ai dit, Antonine, sujet numéro un, Youri Chassin joint les rangs du Parti conservateur. On s'était préparé pour ça!
L'avait dit, Marceau, qu'il le ferait pas.
Mais on va aller voir l'autre coupable. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, qui on a parlé il y a de ça quelques semaines. J'avais dit à M. Chassin, c'est l'occasion pour vous de changer l'histoire, de mettre 500 000 personnes à l'Assemblée nationale. Je pensais que c'était fait, mais ça ne l'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Chassin, dans les derniers jours pour que vous, Éric Duhaime, fassiez une sortie conjointe ensemble pour aligner vos idées, quoique il y a certaines idées avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous l'avez amené là?
Mais en fait, vous avez raison qu'on vous a peut-être un peu teasé, là,
ouais.
Mais évidemment, il y a, je pense, effectivement, une valeur à entendre la voix du Parti conservateur du Québec, notamment en prévision du discours d'ouverture qui s'en vient donc mardi prochain. Fait que si le premier ministre fait un discours d'ouverture un peu en ligne avec le virage plus droite économique qu'il a... laisser comprendre, là, quand on a vu le Conseil des ministres remanié, ben, à ce moment-là, on s'est dit, d'en parler, c'est une chose, là, mais est-ce qu'il va vraiment le prouver? Et effectivement, on a des points communs, on s'en cache pas, Éric et moi. On voulait montrer, en fait, que si le gouvernement est sérieux, ben, voici ce qu'il peut faire. Est-ce que je suis toujours indépendant parce que je suis difficile à conquérir, mais c'est d'abord parce que mes électeurs m'ont élu sous une autre bannière. Pour moi, c'est important de respecter le fait que je ne peux pas être à la CAQ parce que c'est pas ce que la CAQ a promis qu'elle a fait. Donc, essentiellement, je demeure indépendant. Puis, savez-vous, pour un député, être indépendant, c'est pas une malédiction, c'est un outil. Et si ça me permet parfois, par exemple, de faire... de la place avec Éric Duhaime à des idées plus à droite, eh bien, certainement.
Éric Duhaime a approché comment Youri Chassin, Éric?
Ben en fait, c'est Youri a déchiré sa carte de membre de la CAQ il y a à peu près une dizaine de jours.
Là, t'es heureux, là.
Et ben je pense que le Québec était heureux. Et donc, puis on serait encore plus heureux s'il y en avait 80 autres qui le faisaient. Mais puis quand il a été interviewé par Alain Laforêt à TVA, il lui a demandé s'il comptait joindre les rangs du Parti conservateur, un peu comme ce que tu viens de faire. Et ce qu'il a répondu, c'est qu'il était prêt à collaborer de façon ponctuelle. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai dit « Bon, mais gars, Youri, je vais passer de la parole aux actes. Il y a un discours d'ouverture qui s'en vient. C'est un moment charnière première, là, parce qu'on recommence un nouveau parlement. Là. Les gens ne réalisent pas ça, là, mais mardi, il va y avoir des nouveaux projets. C'est comme si on venait d'élire un nouveau gouvernement. Là. On part à zéro, la page blanche. Là. Ils ont effacé le tableau, on repart. Et là, le premier ministre dit qu'il va faire un virage conservateur. Bien, j'ai dit, Yuri, nous autres, on a des idées conservatrices. On est les deux personnes, probablement, en politique québécoise qui en avons mis le plus à la table au cours des dernières années. On s'est connus, moi puis lui, il y a 15 ans à l'Institut économique de Montréal. Puis depuis ce temps-là, les deux, on n'a jamais arrêté d'en pondre des idées conservatrices. Là. Donc, on lui a fait des propositions constructives. Parce qu'en politique, des fois, il faut que tu mettes la partisanerie de côté. Là. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Yuri et moi, on est capable de faire. On est là pour les convictions. Là. Yuri, il a laissé son poste alors que la CAQ est encore populaire dans les sondages. Il a laissé de l'argent sur la table, puis il est allé siéger comme indépendant parce qu'il n'était plus d'accord avec le virage de la CAQ. Moi, je suis parti avec... J'ai fait renaître un parti politique qui était à 1% dans les sondages, puis qui avait 200$ dans le compte de banque. Là. Donc, on n'a pas choisi la voie facile, puis la voie opportuniste. On a choisi la voie des convictions, puis c'est ce qu'on a encore fait hier en mettant des propositions concrètes sur la table.
Quels sont les éléments sur lesquels, M. Chassin, vous vous entendez avec le Parti conservateur du Québec? Parce que j'ai écouté la conférence. Bon, j'étais un peu déçu, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse ma job. Il y avait des points sur lesquels vous vous entendiez très bien et d'autres pas du tout. Quels sont les points, premièrement, sur lesquels vous entendiez très bien pour justement essayer de pousser le gouvernement actuel à être meilleur?
Bien, c'est ça. En fait, c'est surtout qu'on voulait faire valoir parce que, comme l'a dit d'ailleurs dans la conférence Éric, on est parti d'à peu près 16 idées. Là, puis on s'est dit, bon, on va présenter 5 idées qui sont vraiment l'espèce de seuil minimal pour que le gouvernement trouve sa bonne foi si effectivement il fait un peu un virage à droite. Et c'est assez simple. Somme toute, là, c'est des idées que la CAQ a déjà défendues à un moment ou à un autre. Là. Donc, on parle de libéraliser le commerce de l'alcool. On essaie des entrepreneurs qui le veulent mettre, par exemple, sur pied leur entreprise et que ce soit pas juste un monopole d'État. Abolir des quotas de véhicules électriques pour la vente là, aux consommateurs. Les laisser choisir leur propre véhicule. Avoir un vote au scrutin secret, donc très démocratique, quand on constitue un syndicat. On parle de moderniser le régime syndical au gouvernement, mais est-ce qu'on peut commencer par, quand on se syndique, on est sûr que les gens veulent vraiment syndiquer? La fin de la permanence des hauts fonctionnaires pour pas se retrouver avec un sous-ministre adjoint qui est juste déplacé d'un endroit à un autre parce qu'il a fait des problèmes, puis il est permanent, on peut pas le renvoyer. Et puis, ramener la Société d'assurance automobile à sa mission d'assurance. D'abord et avant tout, le recentrer. On parle de recentrer l'État sur ses missions essentielles. Bien ça, c'est un bon exemple. Je pense que la Société d'assurance automobile fait tout et son contraire. On peut se concentrer sur une mission. On n'a pas besoin de 5000 fonctionnaires pour une mission d'assurance. Alors, commençons par là.
Je veux vous entendre les deux là-dessus. Est-ce que c'est vrai que c'est votre vision de la bourse carbone qui fait en sorte que vous vous êtes pas joints les deux ensemble?
Non. D'abord, ben, tu sais, Yuri et moi, là, hier, ils en ont parlé un peu, là, mais on avait même une des 16 propositions qui était spécifiquement sur le fonds vert. Parce que et lui et moi, on trouve que ça n'a pas de sens qu'il y ait un plat de bonbons dans les mains des politiciens et des fonctionnaires de 1,6 milliard par année qui distribuent à qui veut bien.
J'ai encore sur le dos dans le fonds vert qu'on ait pris de l'argent pour faire une clôture électrifiée au Gabon pour des gorilles. Là.
Oui, ça, c'est pas une joke. Là.
C'est vrai.
C'est un article du Journal de Québec là, qui nous l'a appris. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, je pense que, tu sais, Yuri, là, c'est pas. Puis, moi aussi, là, on n'est pas du monde qui veut taxer plus les gens. Là. Tous les deux, on est scandalisés de voir que les Québécois payent plus cher l'essence que partout ailleurs au Canada. Mais il y a 6 taxes. Là. Fait qu'on peut-être qu'on n'est pas d'accord sur quelle taxe devrait être baissée comment. Mais au total, là, ça prend d'après moi 10 minutes dans une salle, toutes les deux, on est capable de se trouver un compromis bien, bien vite sur comment on va ramener le gaz à un prix comparable à celui de l'Ontario.
Parce que, M. Chassin, c'est quand même 20 cents à peu près là, que les Québécois pourraient sauver si on s'enlevait de la bourse du carbone. Quels sont les points positifs de garder cette bourse du carbone alors qu'il ne reste personne au Canada à part nous qui avons ça? Il reste nous et la Californie, de ce que je comprends, là, aux États-Unis. C'est quoi les points positifs de la garder, à mis à part nous enlever un peu d'argent dans nos poches? Encore?
Oui, bien, alors évidemment, comme le dit Éric, probablement que si on passait 10 minutes à en discuter, on trouverait certainement un compromis. Mais je vous dirais qu'essentiellement, on a un beau modèle théorique qui est en pratique mal appliqué. Fait qu'évidemment, il y a pour moi un intérêt, par exemple, de dire si on a une vraie bourse du carbone avec nos partenaires, puis que c'est, ça permet de mettre un prix sur l'émission, par exemple, pardon, sur l'émission d'une tonne de GES. Ben,
mais je comprends rien. Est-ce qu'on peut être plus clair pour les automobilistes qui nous écoutent? Parce que là, moi, je vois le Vincent à sauver, je regarde l'essence en Ontario. Les gens de Gatineau, ils veulent plus mettre de l'essence à Gatineau. Ils traversent l'autre bord à Ottawa. Oui, ben, on ferait la même affaire, puis vous et moi en plus, alors que vous êtes pour la bourse carbone. Donc, concrètement, pour l'automobiliste, là, c'est quoi la maudite bourse carbone, puis pourquoi faut la garder?
C'est quand, par exemple, un détaillant d'essence dit, moi, pour vendre de l'essence, il faut que j'achète des permis d'émission, par exemple. Ben, c'est un coût de plus. Et donc, ça fait monter aussi le prix du produit qui est vendu, c'est-à-dire le litre d'essence. Et c'est l'automobiliste qui le paye.
Oui,
est-ce que c'est un avantage pour lui? Ben, non. Mais ça peut être un avantage pour l'ensemble de la société si, avec ce prix-là de plus, on élimine toute la paperasse, puis toute la bureaucratie, puis tous les programmes qui, essentiellement, cherchent à faire la même chose, mais de façon beaucoup moins efficace. En fait, c'est un mécanisme de marché pour que les choix qui soient faits dans la société soient les meilleurs et les moins coûteux. Mais évidemment, ça, c'est un modèle théorique. Puis aujourd'hui, ce qu'on a comme ce système de plafonnement et d'échange, là, notre bourse du carbone à nous, là, ça n'a pas trop rien à voir, en fait, avec le modèle théorique. Fait que c'est sûr que en pratique, j'aime pas particulièrement le modèle qu'on a. En théorie, ça pourrait être bon. Est-ce que il faut en sortir et d'attitude, ou est-ce qu'il faut l'améliorer? Là, après ça, on pourrait avoir des discussions.
Parce que si je résume en 15 secondes ce que vous me dites, là, c'est sur chaque 20 cents du litre que je paye, ça s'en va pour éliminer la paperasserie. Puis ça, c'est supposé être positif pour nous. C'est ce que vous venez de dire en une minute, là.
En quelque sorte, c'est ça. C'est que si, en payant ce 20 cents-là, on épargne 40 cents de l'autre bord.
Peux-tu l'aider, Rick?
C'est qu'il y a 6 taxes sur l'essence, OK? Le problème de la taxe carbone, si on avait éliminé les autres taxes et on l'avait remplacée par celle-là, il y aurait peut-être une justification, puis au total tout, effectivement, les automobilistes paieraient peut-être moins. Le problème, c'est qu'on l'a additionné, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous payez presque la moitié de l'argent quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture. Il y a la moitié que ça s'en va dans les poches du gouvernement. Vous remplissez plus les poches du gouvernement que votre char. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème. C'est qu'ils se sont servis de ça. Puis l'autre problème qu'on a avec la taxe carbone, c'est qu'à tous les ans, le prix va monter. C'est une taxe ascenseur. Hein?
Exact.
Donc, à tous les ans, sans même, tandis que, mettons, la taxe sur les carburants, c'est 19,2 sous le litre, ça ne bouge pas. Mais la taxe carbone, à tous les ans, elle va monter d'un sou ou deux, tout le temps, obligatoirement, parce que le plancher de la bourse, il monte. Donc, ça, c'est un gros problème. Ça veut dire qu'à terme, là, parce que eux, vous comprenez, là, c'est tout dans le même agenda de vouloir éliminer les voitures à essence. Là. Ils ont commencé par réglementer pour interdire la vente de véhicules à essence avec des quotas à tous les ans. Puis parallèlement, on augmente de plus en plus le prix de l'essence artificiellement pour que les gens n'aient pas le choix, soient égorgés, soient obligés de s'en aller électrique.
Mais c'est moi qui se trompe ou être pour mon char, mon choix, pour reprendre justement ta campagne, c'est être contre la taxe carbone en parce que tu ne peux pas être les
deux. Non, mon char, mon choix, ça n'avait pas rapport avec les taxes sur l'essence. Là. Mon char, mon choix, c'est par rapport au quota de vente de véhicules.
Ouais,
Yuri, il est mieux placé que moi pour en parler parce que lui, il représente un comté où Lyon Électrique a son siège social puis son usine.
En effet.
Et ça a commencé par les voitures électriques. Pas les voitures, mais les autobus électriques.
Ouais.
On a dit au Québec, on va être les premiers au monde à électrifier les transports scolaires à 100%.
Oui, puis là, ils ont tous été mis de côté, ces autobus-là, il y a deux semaines.
C'est ça. Mais on a créé un monopole artificiel, ultra subventionné à hauteur de 450 millions. Puis on s'est ramassé avec une faillite, puis c'est une catastrophe. On est même obligé mettre les autobus au rencard parce que le feu pogne dedans.
Là, les parents sont obligés de reconduire comme... jeune à l'école.
C'est ça. Mais c'est comme un quota de 100% obligatoire pour tous les véhicules scolaires et les autobus jaunes.
Mm-hmm.
Fait que on a commencé, au lieu de parler de la bourse du carbone, ben on a commencé par ça, parce que les quotas de véhicules électriques, ça va avoir un effet sur les consommateurs.
Je comprends, vous étiez quand même à la conférence de presse en 2019 qui annonçait justement Lyon Électrique dans votre comté, puis vous étiez pour. Comment votre tête se porte à l'heure actuelle avec Lyon Électrique?
Puis, en fait, c'est un petit peu ça, hein. C'est que quand on est dans un système où est-ce que les règles disent, ben, il faut essayer de convaincre le gouvernement, là, de nous donner un avantage, puis que le gouvernement trouve que c'est son rôle d'intervenir, ben, je comprends Lyon Électrique d'avoir fait ces démarches-là. Mais en même temps, moi, ce que je veux qu'on note, c'est qu'on n'a pas bâti une entreprise forte et compétitive. Au contraire, on a protégé une compagnie en lui donnant une espèce de monopole réglementaire. Mm-hmm. Ça n'a pas donné des très, très bons résultats.
Mais en 2019, étiez-vous pour qu'on bâtisse justement ce monopole-là, étant donné que vous étiez à côté de Pierre Fitzgibbon, Sylvie Dameau, Benoît Charrette, à la même conférence de presse?
On va se le dire, j'étais pas pour, j'ai jamais été pour, mais quand c'est ça les règles, je comprends pourquoi. Et puis après ça, ben, je fais partie d'un parti politique ou pas. En ce moment, j'ai pas de ligne de parti, ça c'est mon affaire, je peux vous le dire.
Okay. Donc l'association que vous avez faite hier avec le Parti conservateur du Québec et Éric Duhaime, M. Chassin, c'est pas la dernière fois qu'on va voir ce type de conférence de presse-là à l'Assemblée nationale.
Mais moi, je pense qu'on a des points communs, mais on y va un dossier à la fois. Puis
on va
voir aussi quel résultat ça donne. Moi, je pense que c'est intéressant de voir si le gouvernement va adopter un peu là, cette feuille de route qu'on y trace en quelque sorte.
Est-ce que vous fermez totalement la porte un jour à intégrer le Parti conservateur du Québec parce que vous avez des idées qui sont pas mal alignées?
Ben oui, je ferme totalement la porte pour être clair parce que, évidemment, comme je disais à Éric en conférence de presse, il y a tout le temps un petit peu là, des potins qui prennent le dessus sur le fond. Mais à la fin, moi, je veux être clair parce que en ce moment, ce que Éric et moi, on voit, puis ce que je pense que les autres partis devraient voir aussi, c'est que le Québec va vraiment pas dans la bonne direction.
Fait qu'on n'aura pas un Youri Chassin aux prochaines élections qui va se présenter sous la bannière du Parti conservateur du Québec.
Moi, c'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est pas ma réélection. Mon intérêt, c'est que le Québec aille dans la bonne direction.
Puis l'intérêt des gens aussi là, qui nous écoutent, là, le monde qui sont dans leur char présentement, là, leur priorité, là, c'est qu'ils payent trop cher de le prix du gaz, oui, mais aussi ils payent trop d'impôts au Québec. On est l'État le plus taxé. Il y en a 1 sur 10 qui est obligé d'aller dans une banque alimentaire pour nourrir sa famille cette année. Il y en a 1 sur 4 qui a de la misère à renouveler son hypothèque. Les jeunes sont plus capables de s'acheter des maisons. Les vieux sont plus capables de se faire soigner dans le sens du monde. Je veux dire, on a des problèmes majeurs au Québec. Mm-hmm. On a besoin d'une réforme. Le modèle ne fonctionne plus. Puis ce qu'on a voulu mettre en évidence hier, le Youri, c'est pas la couleur de la carte de membre qu'il y a dans ses poches ou qu'il n'y a pas. Là. Ce qu'on veut mettre en évidence, c'est qu'il faut que ça prenne un virage majeur. Appelez ça un virage conservateur, appelez ça un virage à droite, appelez ça le virage de l'efficacité, appelez ça comme vous voulez. Ça prend un changement pour ne pas rentrer dans le mur. Le Québec, tranquillement, se dirige à vitesse grand V dans le mur. Il faut que ça change. C'est ça notre message de base. Là.
Je suis très d'accord. C'est pour ça que tantôt, je reliais là, mon choix à la bourse carbone. Parce que pour moi, ça vient aider les gens à faible revenu de pouvoir continuer à acheter des voitures usagées à essence puis de ne pas avoir à payer 20 cents de plus à la pompe. Là.
C'est sûr que la taxe sur l'essence, c'est une taxe régressive dans le sens où les pauvres, en pourcentage de leurs revenus, payent plus que les riches. Et ça a un impact sur la bouffe, ça a un impact sur tout ce qu'on consomme. Donc, c'est clair que c'est une taxe qui touche particulièrement. D'autant plus que les riches ont de plus en plus des voitures électriques. C'est-à-dire que le monde qui a des Tesla à 100 000, là, c'est pas le gars qui gagne 30 000 piastres par année.
Non.
Là.
Donc, c'est pas la famille moyenne au Québec.
Non. Fait que, tu sais, Puis ces gens-là payent aussi pour les infrastructures routières, parce que nos taxes payent en grande partie pour les infrastructures routières. Puis les gens qui ont les voitures les plus chères aujourd'hui ne contribuent plus. Il y a quelque chose de totalement inéquitable dans la façon dont la fiscalité au niveau de l'essence puis de comment on paye nos routes. Là.
En espérant vous croiser en studio, un de ces quatre, M. Chassin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Youri Chassin, qui est député de Saint-Jérôme, député indépendant. On croyait que c'était chose faite avant hier soir. Là, que
ouais, exactement.
C'était l'entrée de...
On s'était préparé à ça.
À l'Assemblée nationale. En tant que chef élu, mais oui. N'ayant aucun député, c'est quoi tes droits à l'Assemblée nationale, Éric?
Aucun. J'ai juste pour vous donner une idée comment c'est fou. Là. Moi, j'ai convaincu une femme, il y a 5 ans, de joindre le Parti conservateur du Québec, Claire Samson. Oui. Parce que j'avais convaincu une femme, je pouvais rentrer à l'Assemblée nationale à tous les jours, faire tous mes points de presse, on pouvait déposer ce qu'on voulait, on pouvait aller dans les commissions parlementaires, on pouvait tout faire. J'ai convaincu 530 000 Québécois de voter pour moi, puis j'ai plus aucun droit.
Ouais.
Okay? Puis pire que ça, je vais vous donner des exemples très concrets. Là. Radio-Canada fait, je vous l'annonce, là, ils vont avoir un documentaire là, le mois prochain, parce que ça va faire 30 ans le référendum de 95. Okay? Puis ils veulent savoir où étaient les chefs au référendum, puis comment on a vécu la campagne référendum. T'sais, c'est intéressant là, d'un point de vue documentaire pour l'histoire du Québec. Là. Fait qu'ils ont fait ça dans la hall du Parlement avec tous les chefs. Ils m'ont invité, puis quand je suis arrivé pour rentrer, on m'a refusé. Et pour filmer un documentaire dans le hall qui est payé par les contribuables, c'est pas le Parlement, là, c'est dans le hall. Et il a fallu qu'on loue une chambre d'hôtel de l'autre côté de la rue pour que moi, je puisse faire mon entrevue à part des autres. Mais c'est, ça vous montre comment...
T'as pas pensé à pleurer devant la porte?
J'aurais peut-être dû.
T'aurais eu un peu d'empathie.
Puis, non, mais ça démontre quelque chose, que notre système, là, il est archaïque, puis il y a quelque chose qui marche plus, là. Puis c'est quoi? Puis pensez-y deux minutes, là. Si j'étais totalement irresponsable, puis je voulais me venger, là, je dirais à 530 000 personnes aux prochaines élections de ne pas aller voter parce que leur vote vaut rien. Parce que leur vote, là, il est considéré comme zéro dans notre institution démocratique. Imaginez si je disais ça. Imaginez que 530 000 Québécois de moins allaient voter. Puis c'est notre démocratie au complet là, qui en souffrirait. Mm-hmm. Un moment donné, là, il faut se rendre compte que ces règles-là sont archaïques, elles ne fonctionnent pas. Puis on peut pas. Puis il y a toutes sortes de choses qu'on aurait pu faire. Puis le premier, ça avait promis en plus une réforme du mode de scrutin. Puis l'ironie de la chose, là, c'est que dans un an, je risque d'être élu, puis je risque d'arriver là avec une forte délégation, là, une forte, un caucus assez représentatif, particulièrement ici en région de Québec, dans la grande région de Québec. Là. Et le parti qui risque de souffrir le plus du mode de scrutin actuel, c'est la CAQ. Mmh. Si on se fie au sondage actuel, là, il va se ramasser avec zéro député. Ouais. Et donc, eux qui ont promis un mode de scrutin, qui ne l'ont pas fait parce qu'ils l'avaient avantagé, les avantagés parce qu'ils ont été au pouvoir pendant 8 ans, risquent d'être ceux qui vont souffrir comme moi dans les 4 prochaines années.
Et pourrais-tu décider là, de le faire dans la dernière année du mandat?
Ils ont tellement fermé la porte à double tour. Tu sais, M. Legault est allé dire qu'il y avait juste les intellectuels qui s'intéressaient à ça, que le monde ne se battait pas dans les autobus pour réformer le mode de scrutin. Il s'est tellement peinturé dans le coin que je vois difficilement comment il pourrait marcher sa peinture.
Crains-tu ne pas être invité au débat des chefs? C'est Antonine Iaccarini qui m'a allumé là-dessus hier en disant que Claire Samson était là pour permettre à Éric Duhem
d'être au débat
des
chefs. C'était pas à cause de Claire Samson que j'ai été invité. Puis d'ailleurs, ça me surprend que Mme Iaccarini dise ça parce que Québécois avait même écrit une lettre, puis Radio-Canada aussi, où il disait que ça prenait 3 sondages à 10 %
OK.
Pour être invité au débat.
Alors
des
là, t'es correct jusqu'à présent.
Ah oui, c'est Québec solidaire qui devrait s'inquiéter, là. Mais
ouais.
Ça... mais ça va ruer des brancards. Si Québec solidaire est pas. Tu sais, ils sont très vocales, là, sur les réseaux sociaux.
Mais non, mais Québec solidaire, il faut que ce soit au débat. Là. Ils ont des députés qui représentent quelque chose dans le décor politique québécois. Moi, je suis pas contre leur présence au débat. C'est pas ça que je suis en train de dire.
Le financement politique, ça va comment jusqu'à maintenant?
Écoute, honnêtement, on n'en fait pas beaucoup parce qu'on est un parti, encore une fois, qui. Comment je vous dirais ça? On est un parti politique qui, contrairement aux autres, parce que justement à cause de ce que je viens de vous dire, on n'a pas beaucoup de dépenses. Puis on a beaucoup, beaucoup ramassé de financement historiquement parce qu'on n'avait pas de financement de l'État. On était le seul parti. Ça aussi, c'était une grosse barrière à l'entrée, là. Il a fallu qu'on ramasse 3, 4, 5 millions il y a 3 ans. Et on a vidé les poches aussi de nos militants à ce moment-là, là. Puis il y a le fédéral qui est passé après. Eux autres aussi, ils ont vidé les poches de nos militants pas longtemps
mais
après.
Mais c'est-tu stressant, les finances d'un parti?
Non.
Parce que, tu sais, toi, tu travailles extrêmement fort sur le plancher des vaches, tu vas rencontrer du monde, tu serres des mains, mais à un moment donné, il faut que tu aies un salaire toi aussi.
On est le deuxième parti, là, entre guillemets, le plus riche, là, mais dans le fond, parce qu'on était très conservateurs dans la gestion de nos fonds. Là.
Ouais.
On a des millions dans les coffres, fait qu'on n'a pas, on est capable de faire la campagne électorale sans financement. À l'heure actuelle, il ne faut pas que je le dise trop fort parce que je veux que le monde continue à financer parce que ça nous permet de faire encore plus de choses. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a un système de financement un peu différent. Il y a des partis qui donnent ou qui vendent des cartes de membres 5 $. Nous autres, on les vend 15 $. On a beaucoup de financement qui vient du membership. On a le deuxième plus gros membership, là. Puis on sert des cartes de membres aussi pour financer, pas juste du financement populaire.
Yuri, puis au bout du fil, t'es-tu déçu pareil qu'il n'ait pas voulu venir avec toi?
Écoute, comme je le dis souvent, là, plus on approche l'élection, moins c'est important d'avoir des députés. Il ne reste plus beaucoup de temps à l'Assemblée nationale à siéger. La priorité...
Mais ça t'aurait quand même permis de faire des conférences à l'Assemblée comme tu as fait. Il y a un gain significatif.
Mais il l'a dit, là, je vais peut-être en faire d'autres. Je vais peut-être en faire d'autres avec d'autres aussi, on ne sait pas. Là. Mais il y a, l'année qui vient, là, on commence un marathon électoral. Là. Il reste un an. Normalement, c'est le point de départ. Là, il faut qu'on trouve 125 candidats. Il faut qu'on s'assure d'avoir une plateforme, un programme électoral qui répond aux besoins des gens. Il faut que je fasse des tournées des régions. T'sais, la semaine passée, j'étais au Saguenay. Il faut qu'on... C'est beaucoup ça la prochaine année. D'ailleurs, vous avez vu, hein, Pablo Rodriguez ne veut pas se faire élire à l'Assemblée nationale parce qu'il veut se promener puis il veut s'occuper de la prochaine campagne électorale parce que c'est beaucoup de temps à consacrer aux travaux parlementaires. Mm. Puis politiquement, plus on s'approche de l'élection, moins il y a des choses signifiantes qui se font parce qu'on sait que de toute façon, ça ne sera pas adopté. C'est juste du fluff-là en vue de l'élection.
Puis Pablo Rodriguez aussi, Marois Risky, va être meilleur que lui pour faire les débats. Fait que,
oui, exact.
Il gagne.
Exact. Y a-tu un caillot, Éric Duhem, qui est passé dans la tête de Mme Legault?
Oui, un matin, José Legault dans le journal qui écrit une bonne chronique à mon sujet.
Oui, puis
je vais l'encadrer.
Ben, c'est ça, c'est une dame qui est très, très à gauche, là, d'un certain âge. Fait que ça m'a surpris qu'elle constate que tu es un homme persévérant.
Ben là, puis savez-vous quoi? Il y a souvent, et puis c'est bizarre parce que c'est. Je disais ça ce matin. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Puis moi, je suis fier de ça parce que pour moi, la persévérance, c'est une grande qualité, sinon la plus belle. Tu sais, les gens d'affaires qui réussissent, là, c'est pas vrai qu'ils réussissent tout du premier coup. Là. Il y en a plusieurs qui ont tombé 2-3 fois, puis qui sont cassés à la gueule, puis qui ont fait faillite, puis qui sont repartis, puis ils ont travaillé comme des chiens, puis ils finissent par réussir, puis ils finissent par avoir une business qui a de l'allure. C'est la même chose dans ton couple. Là. Des fois, ça arrive que...
Moi, ça va toujours bien.
Ah oui, t'as pas besoin de persévérance, toi, c'est toujours facile. Puis c'est... Non, mais c'est même au travail, là, je veux dire, il faut être persévérant dans la vie. C'est une belle qualité, la persévérance, puis je suis fier qu'on m'associe à la persévérance. Puis oui, c'est... on a eu des échecs, oui, on a été déçus, mais la force de nos idées fait qu'on se retrousse les mains, les manches, on se crache dans les mains, puis on recommence, puis on continue à travailler encore plus fort.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, était avec nous. Je te souhaite de passer une belle journée.
Bonne journée à vous tous.
C'est toujours un plaisir d'avoir avec nous autres en studio. Max, sur la route, comment ça se passe?
Le gros de l'heure de pointe était passé à bien des endroits déjà tantôt. Je te dirais que dans le secteur des ponts, par contre, là, la 73 Nord, ça bloque encore à rue Beaulieu. Fait qu'il y a encore des difficultés à ce niveau-là. Sinon, 20 Ouest entre Chemin des Îles et Taniata, c'est toujours au rouge. Capitale Ouest encore, entre Beau-Royal et Laurentienne, c'est jamais. Et il semble y avoir quelque chose qui se passe du côté d'Henri IV, direction sud, vers la 40, là, parce qu'il y a comme du rouge qui est apparu à cet endroit-là, qui est plutôt inhabituel à cette heure-ci.
Merci beaucoup, on s'arrête. 418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, 8h56.
Marceau le matin. Marceau